Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Dominique Gatineau, le cofondateur et secrétaire général de l'association reconnue d'utilité publique Les Enfants de Tchernobyl, créée en 1992 après la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine qui a eu lieu en 86 et qui aujourd'hui encore continue de contaminer les sols et d'empoisonner la population. Dominique Gatineau, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, outre les actions pour informer sur le sort des habitants autour de Tchernobyl, vous organisez l'accueil de 500 enfants chaque année en été pour nettoyer l'organisme de ces enfants, nés pourtant bien après l'explosion nucléaire. Pour quelles raisons ce séjour ici en Alsace ou dans les départements limitrophes est aussi bénéfique pour ces enfants ?
Oui, alors, juste un petit rectificatif, c'est-à-dire que nous recevons en moyenne, enfin, accueillir plutôt, entre 150 et 200 enfants tous les ans, hein. C'est-à-dire, ce sont donc au mois de juillet, on accueille, bon, les enfants ukrainiens des villages du nord de l'Ukraine, et au mois d'août, c'est le tour des enfants russes, c'est la ville de Novobzikov, qui est la ville la plus contaminée de Russie, hein, suite à, comme vous parliez, de la catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986. Donc, pour revenir alors à ces séjours que nous organisons depuis 1993, c'est-à-dire qu'actuellement, on a accueilli déjà 5000 enfants. Bon, l'année 2020 était particulière, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire d'accueil. Donc, ces séjours sont quand même bénéfiques pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, bon, ces enfants-là sont, avant qu'ils partent de leur village ou de la ville russe, ces enfants sont tous mesurés au niveau de leur taux charge corporelle, au niveau du taux de césium. Et sur la totalité des enfants, ils ont tous des taux quand même plus ou moins importants, mais leur corps contient toujours du césium. Donc, au niveau qu'ils sont bénéfiques, c'est-à-dire lorsqu'ils viennent passer 3 semaines dans des familles d'accueil ici, c'est-à-dire qu'ils vont, ils mangent une nourriture beaucoup plus saine et ça leur permet de se refaire une santé pendant ces 3 semaines avant de repartir. Et les résultats sont probants parce que bon, lorsqu'ils reviennent, on leur remesure leur charge corporelle au niveau du césium et on s'aperçoit quand même qu'il y a à peu près 30 à 35% d'amélioration, c'est-à-dire de perte de ce taux de césium.
Le césium 137, qui est évidemment une conséquence grave de l'après-explosion de la catastrophe de Tchernobyl, quelles sont les conséquences sur la santé de ce césium 137 ?
Oui, alors on s'aperçoit, bon, les familles d'accueil s'aperçoivent, et puis lorsqu'on fait notre réunion des familles, c'est sûr qu'on les prévient. Ce sont des enfants, dans leur majorité, qui sont quand même fatigués, c'est-à-dire que bon, lorsqu'ils font des efforts, enfin au niveau de la marche et autres, donc problèmes de fatigue, beaucoup de problèmes de thyroïde, hein, et des problèmes aussi qui peuvent aller jusqu'au cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'ils sont quand même très affaiblis. Hein. Alors malgré que cette catastrophe ça fait déjà quoi, 35 ans, voilà. Ben, malgré ça, tous ces enfants-là subissent encore les effets des retombées radioactives. Et ce qui s'est passé l'an dernier, c'est-à-dire qu'il y a eu des graves, enfin les plus importants incendies au mois d'avril 2020 dans la région où ces enfants vivent. Et c'est pareil, on s'est aperçu qu'il y a une dégradation de leur santé par rapport aux retombées des cendres radioactives. Et de plus, surtout actuellement, l'hiver a été rigoureux et les familles se chauffent essentiellement au bois. Donc ce bois contient énormément de radioactivité. Ce sont des bois radioactifs, comme on dit.
Il faudra combien d'années pour nettoyer les sols et donc le fruit de la culture, de l'agriculture ?
C'est très difficile pour vous répondre parce que il faut savoir que il y a pas que le césium, il y a le strontium, il y a tout un tas d'autres matières radioactives. Et même si aujourd'hui, que ce soit au niveau du gouvernement et autres, on y a un peu les effets encore de cette catastrophe, mais on a effectué plusieurs carottages. Là, on a quand même des experts indépendants qui sont déjà venus avec nous en mission. Et puis malgré ça, on s'aperçoit que les terres sont encore très contaminées. Alors c'est vrai que ce sont, c'est pas parce que le village est situé en dehors de la zone des 30 km, Nous, on a des villages qui sont très, très proches de cette zone-là. Et quelquefois, même situés à 100 km, on trouve encore des traces de radioactivité importantes. C'est ce qu'on appelle les taches léopards. C'est-à-dire que vous pouvez être près de la centrale, à, je sais pas moi, à 2 km, et qu'il n'y ait aucune radioactivité. Et vous pouvez en être à 100 km et on retrouve des traces. Donc, ça peut perdurer des centaines d'années. Hein. Il y a comme le strontium et, ou autres, des produits quand même qui peuvent, comment on dit, vivre plusieurs, malheureusement plusieurs centaines d'années. Hein.
Comment les enfants, donc des Ukrainiens, des Biélorusses, des Russes, vous le disiez, comment les enfants, les premiers, vous les avez accueillis en 92, comment est-ce qu'ils vont aujourd'hui? Vous prenez des nouvelles?
Oui, on a accueilli vraiment les premiers enfants en 1993. Hein. Donc, on prend des nouvelles. Alors, si vous voulez, il y a quand même, bon, ce qui est au niveau des résultats, comme on dit, c'est vrai qu'il y a des belles aventures, c'est-à-dire du côté, que ce soit du côté enfant et du côté famille d'accueil. Il y a des familles d'accueil qui ont accueilli ces enfants-là dès 1993, qui les ont accueillis pendant 10 ans, hein, c'est-à-dire entre 8 ans et 18 ans, et ils sont toujours restés en contact. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas une majorité, mais on a des personnes, récemment, ils ont été invités à un mariage, enfin, des jeunes qui se marient, et ils invitent leur famille d'accueil. Et après, on vient de recevoir, il y a une quinzaine de jours, là, une photo d'enfant, une naissance, il y a une famille alsacienne qui a accueilli en tant qu'enfant, cette petite fille, qui est devenue interprète aussi au niveau de notre association. Et puis là, bon, elle vient de donner naissance à un bébé, bien sûr. Et oui, donc il y a quand même des contacts. Hein. Non, et ça se passerait très bien.
Les enfants devenus adultes se portent bien aujourd'hui ou il y a toujours beaucoup de cas de cancer, de problèmes de thyroïde?
Se porte bien. Bon, on va pas vous dire que la totalité des enfants sont malades, ou handicapés autres, mais il y a quand même des enfants, comme on dit, qui ont des cancers, qui ont des problèmes de thyroïde et autres. Hein, ça, c'est sûr. Hein.
Et au-delà du geste sanitaire que vous faites, il y a aussi, on va dire, une envergure sociale. Ces enfants, c'est leur donner de l'espoir, parce qu'ils viennent souvent de milieux très modestes, de leur donner l'envie, vous le disiez, la petite qui est devenue interprète. Et il y a d'autres cas comme ça qui se répètent.
Oui, alors milieu social, c'est bien que vous m'en parliez, parce que nous, dans nos critères, on reçoit ces enfants-là, il y a deux critères. Il y a d'origine modeste, hein, les enfants d'origine modeste, c'est-à-dire que nous, on va visiter toutes les familles sur place, hein, les familles de ces enfants. Donc, on fait deux missions par an pour ça. Et c'est parce que, si vous voulez, on gère l'association, on supervise l'association de A à Z. Hein. Donc, ces enfants-là vivent dans des familles modestes, près de la zone contaminée, les 30 km. Hein. Voilà, donc c'est au niveau géographique et social. Donc ces enfants-là, c'est sûr, lorsqu'ils viennent dans les familles alsaciennes et vosgiennes et puis limitrophes, c'est vrai que quelquefois, ils sont très, très surpris quand même. Hein. Alors c'est des enfants, après, comme on dit aux familles, c'est très, très bien de les gâter, de s'en occuper aussi, parce que le but est ça, c'est qu'ils vivent quand même 3 semaines, entre parenthèses, de vacances, et après, pour certains enfants, la France, c'est un peu l'Eldorado aussi. Donc, on essaye de leur faire comprendre aussi que les familles d'accueil font aussi des efforts financiers pour les accueillir. Alors voilà, donc ça, c'est au côté social, mais ça fait un grand, grand bien. Il n'y a pas que les accueils d'enfants, c'est-à-dire que deux fois par an, là, on lance des projets d'aide alimentaire. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que, je pense que vous avez toutes les informations sur le site internet. Donc, ça fait partie de nos projets, surtout actuellement, cette année, par exemple, comme 2020. On n'a pas encore pris la décision pour les accueils 2021, même si on les a préparés, on est dans la phase préparatoire. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'aide alimentaire.
Vous allez aider les familles sur place en leur donnant des bons alimentaires, des bons d'achat dans certains magasins pour les aider, c'est cela?
Voilà, c'est-à-dire qu'on a des partenariats avec des petites supérettes. Hein, et on lance des demandes de dons au niveau national, Alsace et autres. Hein, et ce sont... Alors, Pour les familles qui accueillent ces enfants, c'est ce qu'on appelle les dons nominatifs, c'est-à-dire qu'elles font un don à l'enfant qu'elles vont accueillir, et après des dons non nominatifs, c'est-à-dire que on réceptionne ces dons au niveau de l'association, et après c'est nos responsables sur place, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien, qui choisissent justement des enfants de familles modestes. Ça, c'est surtout le but. Parce que surtout actuellement, les conditions sanitaires sont quand même énormément dégradées. Donc, si on ne peut pas accueillir ces enfants encore cette année, donc on fera plusieurs opérations d'aide humanitaire. D'aide alimentaire, voilà.
J'allais dire, le mot modeste n'a pas forcément le même sens chez nous, où il y a des aides, qu'en Russie ou en Ukraine.
Donc il ne faut pas comparer la France et l'Ukraine ou la Russie. C'est sûr, malgré les aides que nous recevons en France, du côté ukrainien, du côté russe, ces aides n'existent pas. C'est-à-dire que les familles, c'est vrai que les familles qui vivent dans les villages du nord de l'Ukraine, elles ont souvent leur potager et tout ça, mais ça ne suffit pas. Donc les dons qu'on leur fait sont quand même très très importants. Et par contre, ce sont des aides uniquement sur le côté alimentation, c'est-à-dire que c'est pas pour du matériel ou pour de l'alcool, boissons alcoolisées, tout ça, on évite. Hein. Donc, c'est quand même très très supervisé. Hein. Donc, c'est que de l'alimentaire.
Dominique Gatineau, on vous sent très investi dans cette cause et on l'entend. C'est quoi justement cette motivation à cet engagement qui dure depuis 1992 hein?
Ouais, moi, je suis rentré, cofondé l'association, comme je disais, dans le président avec Thierry Meyer, c'est lui le toujours président de l'association, fondateur-président. Moi, je fais partie au niveau du conseil d'administration, et c'est vrai que ça nous prend énormément de temps, de bénévolat, mais je pense que même si on nous dit souvent, oui, mais en France aussi, il faut aider, ça, bon, je le conçois, c'est tout à fait normal. Ceux qui disent ça, généralement, ils n'aideront pas plus en France qu'ailleurs. Donc, que ce soit au niveau de l'Ukraine et Russie, ce sont quand même des pays, je pense que, surtout par rapport à une explosion nucléaire, je pense que c'est un peu oublié. Avec le temps passe, et puis on a tendance à oublier. Donc, ça nous pousse encore plus à nous investir. Et lorsque vous êtes dans l'association depuis quelques années, c'est vrai qu'on s'aperçoit le côté concret de la chose. Ces enfants, lorsqu'ils viennent, c'est vraiment c'est un cadeau. Enfin, comme on dit entre parenthèses, c'est un cadeau. Et pour les familles d'accueil aussi. Je me lâche jamais. C'est-à-dire, lorsque les enfants arrivent, soit en juillet, soit en mois d'août, c'est toujours quelque chose qui nous prend au trip. Et puis, c'est surtout les contacts et tout ça. Et lorsqu'on va sur place, on ne peut pas s'empêcher d'y revenir et continuer à pérenniser notre bénévolat.
Dominique Gatineau, expliquez-nous comment vous financez votre association. Quelles sont les actions mises en avant pour trouver de l'argent? C'est le nerf de la guerre, il faut en parler aussi.
Oui, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre, surtout actuellement, de 2020 à 2021, par rapport à la pandémie. Nous avons quand même des difficultés financières. Donc, ce qui est très important, c'est-à-dire qu'on fait l'opération qui s'appelle les 10 000 euros pour les enfants de Tchernobyl. C'est vrai qu'on fait ça depuis 1993, c'est-à-dire qu'on a vendu plus de 600 000 pissenlits, des œufs en bois ukrainiens, faits par des artisans sur place. L'an dernier, cause coronavirus, on en a vendu 6 000, mais uniquement en ligne. Et là, on a lancé l'opération 2021 qui a commencé le 6 mars, c'est-à-dire récemment, jusqu'au 5 avril. Donc, c'est très, très important pour notre association, sachant que c'est vraiment notre source financière principale. Donc, actuellement, il y a plusieurs façons de pouvoir commander ces lignes, ces œufs, excusez-moi. Donc, soit en click and collect, commande par courrier postal, et également, on vient de créer une boutique en ligne. Donc, la responsable de l'opération de ces œufs s'appelle, c'est Sylvie Henry, et je vous donne le numéro de téléphone, donc c'est le 07 63 87 71 23, et l'adresse internet, en minuscule, c'est opération10000@laposte.net.
Dominique Gatineau, cofondateur des Enfants de Tchernobyl, administrateur du conseil d'administration et chargé de communication. Merci à vous.
Au revoir, Valérie.
Thank you.